Eh bien, bonjour à tous et à toutes, éco-citoyens et éco-citoyennes de tous les horizons, et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast 15 minutes pour changer le monde, votre podcast des solutions environnementales locales. Nous voilà arrivés à la fin de cette première saison du podcast, et quelle saison, on peut le dire, sans mentir, que nous sommes passés par toutes les palettes d'émotions possibles. Et nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir suivis et soutenus tout au long de ce fabuleux périple. Évidemment, nous n'oublions pas les merveilleuses rencontres que nous avons faites tout au long de cette saison, des invités extraordinaires avec qui nous gardons évidemment un contact privilégié et nous prendrons le temps de vous donner des nouvelles de toutes ces personnes-là dans les prochaines saisons, c'est promis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais force est de constater que nos réalités modernes et l'éducation en général ne nous ont pas ou très peu préparé à l'affirmation de notre citoyenneté et à sa pratique, encore moins de notre éco-citoyenneté, surtout lorsqu'il s'agit de faire à plusieurs. On a très vite l'impression que derrière l'intérêt réel que suscite ce besoin d'agir, la plupart des gens se sentent démunis lorsque vient le moment de démarrer la machine. Même si nous avons débuté ici au comité de grands travaux, il nous semblait important le temps juste d'une émission de s'arrêter pour regarder ce qui se passe ailleurs. Mon nom est Sébastien Léonard et je vous invite donc cette semaine à explorer les différentes formes d'éco-citoyenneté. Soyons clairs, la participation citoyenne active ne touche qu'une frange très très faible de la population, un maigre 5% dans les meilleurs des cas. Par contre, les citoyens, lorsqu'ils sont consultés, peuvent démontrer une intention, un besoin de changement qui traditionnellement est pris en charge par les instances gouvernementales. Lorsque le lien est rompu, évidemment, certains mouvements de protestation s'organisent et sont traditionnels dans leurs manifestations ainsi que dans leurs actes de revendication. Ce qui est différent avec les formations des comités citoyens, c'est sans doute la volonté d'apporter une alternative à cette logique, peut-être même permettre un changement de paradigme, une transformation en profondeur de la façon de façonner nos interactions, autant dans nos actions que politiquement. Mais dans les faits, c'est quoi un comité citoyen? À quoi servent-ils? Que font-ils? Surtout, quelle est leur place dans le paysage politique et social? Pour bien comprendre la complexité de ces questions et pour en discuter, nous avons fait appel à 5 invités qui vont partager leur vision et leur vécu autour du concept d'éco-citoyenneté. Donc, 5 visions, donc, avec 2 coopératives de solidarité issues d'actions citoyennes, un organisme de la MRC dont le mandat est justement de développer l'éco-citoyenneté et une élue municipale ayant à cœur l'environnement. Pour débuter le bal, il nous semblait important de partir de la base, de ceux qui, en tant que citoyens, se sont jetés dans le bain avec peut-être une vision, un besoin de faire une différence. 2 histoires éloignées et en même temps très proches puisqu'ils ont fini par suivre des chemins parallèles. 2 coopératives avec des visées sociales fortes et des enjeux différents. La première est juste à côté de chez nous, tellement proche et pourtant si loin, puisqu'elle est de l'autre côté de la frontière, du côté de Portneuf. Il s'agit de la coopérative de solidarité des Grondines, dont la mission est celle de favoriser le développement social, économique et culturel de Grondines de façon durable, responsable et solidaire. La deuxième coopérative, elle, se situe beaucoup plus loin dans l'autre très belle région du Québec. J'ai nommé la région de Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint-François, célèbre pour sa station de ski, dont on va voir qu'il y a évidemment des liens à faire dans tout ça. La coopérative L'Affluent, dont le projet principal consiste à valoriser et à gérer le domaine historique Allégorie par l'entremise d'une auberge de jeunesse, d'un café culturel et l'organisation d'activités écotouristiques avec des enjeux de conservation importants. Pour parler de ces 2 initiatives, nous recevons tout d'abord Isabelle Mingui, membre fondateur et administratrice de la coopérative de solidarité des Grondines, et Guillaume Néron et Léa Landry-Massicotte, tous 2 membres de la coopérative de L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François. Bonjour à vous 3 et un énorme merci de participer à cette table ronde et de partager vos expériences.
Bonsoir.
J'aimerais tout d'abord commencer avec Isabelle Mingui. Si vous le voulez bien, je le rappelle, tu es membre fondateur et administratrice de la coopérative de solidarité des Grondines. Est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu la naissance du projet ?
Certainement. En 2012, quelques citoyens, on était à l'époque 9 membres, 9 intéressés, avons souhaité combler un manque, il y avait on va appeler ça un trou de service, là, c'était à mode un peu, mais on avait besoin de plus de rassemblement, de plus de cohésion à l'intérieur du village même. Une municipalité fusionnée a des fois des défis des kilomètres, ça paraît là, entre deux villages, même si la municipalité administrativement est bien soudée, on comprend bien, mais la marche, elle, et le noyau villageois vit par lui-même. Donc, voilà, il y avait des manques à combler. On souhaitait mettre l'épaule à la roue pour faire une allusion au petit logo qui représente notre coop. Et voilà, on a identifié quelques trucs à...
Tout à fait. Est-ce que tu étais toute seule à l'époque ou tu avais déjà réussi à réunir un certain comité ou un ensemble de citoyens qui avaient un intérêt pour aller dans cette direction-là?
C'était pas mon idée. J'ai été ralliée. On était plusieurs. À la fondation, on était 9. Donc, il y avait 3 couples et des voisins, amis. On se met ensemble, comment on fait pour démarrer quelque chose, quelle forme ça prend. On s'est mis à jaser de ça, puis ça a pris une forme de coopérative de solidarité. Ça aurait pu être un comité citoyen simplement aussi, mais la coop, elle avait une meilleure structure pour la pérennité, on pense.
En fait, c'était ma question. Le statut de coopérative, c'est une nécessité en soi? On va le voir ici que vous êtes deux à avoir choisi ce statut-là, et puis sûrement que Guillaume Néron et Léa Landry vont pouvoir réagir là-dessus aussi plus tard. Mais j'imagine que le choix de la coopérative est réellement un besoin de pérennité d'un tel organisme pour que finalement il y ait des rentrées d'argent et une possibilité de pouvoir continuer à long terme. Est-ce que c'était vraiment ça la raison d'avoir choisi un statut de coopérative?
Il y a quand même une différence là, entre les statuts de coopérative de travail et coopérative de solidarité. Là, la coopérative de solidarité elle est un peu plus floue dans son application. Elle va pas nécessairement. Elle se rapproche plus du comité citoyen et de l'organisme municipal. Donc, d'ailleurs, tout récemment reconnue comme telle par la municipalité, on est plus dans son organisation, plus près d'un organisme municipal, mais avec les coups des franges quand même d'une entreprise d'économie sociale. Donc, on peut embaucher, on peut demander des subventions, puis avoir cette manière-là de... Ça structure quand même pas mal la patente.
Dis-moi, est-ce que l'argent est le nerf de la guerre quand on fait une coopérative avec des visées de solidarité et puis avec finalement un but réellement de comité citoyen? Est-ce que ça fait partie intégrante de la problématique?
On n'était pas au fait nécessairement dès le départ de ça, mais à force de levée de fonds et d'activités de financement, on se rend bien compte que oui, c'est l'honneur de la guerre. C'est pour pouvoir avoir des projets d'une ampleur certaine, puis s'assurer qu'on les fasse dans l'ordre des choses avec les gens qui vont les faire de la bonne manière, ben engager des gens, puis ça prend toujours des sous, là, c'est sûr.
Puis, ça ressemble à quoi les actions qui ont été menées par la coopérative, peut-être en lien peut-être avec la monétisation, mais pas forcément, disons, toutes les actions que vous avez pu mener, ça ressemblait à quoi? Et puis, comment vous avez réussi finalement à aller chercher l'adhésion des citoyens?
Bien, en 2012, on n'avait pas encore de dépanneur ni de café, donc mais on avait en tête ces besoins-là. C'était un des objectifs, donc on a commencé par faire... plutôt les activités sociales, donc une série de, pour augmenter le membership puis l'adhésion de la communauté, donc une série d'activités sociales, ça nous gardait une cohésion dans le comité, et puis ça nous permettait de voir ce qui pogne pas, avoir des échos aussi de la communauté, là, ce qui était leurs besoins. On a fait toutes sortes d'activités, là, des marchés aux puces, des soirées de danse traditionnelle, des soirées de vin et fromage, toutes sortes de choses, là, et d'autres encore. Donc ça a été formateur, ça nous a aidé aussi à rencontrer notre communauté, puis que notre communauté nous connaisse. Ensuite de ça est venu le projet du dépanneur, du café dépanneur, qui est venu plus tard en 2015.
Puis dis-moi, j'imagine que la COVID a dû mettre un frein à pas mal de vos activités. Comment vous l'avez vécu de votre bord?
Elle a mis un frein à nos projections, à nos spectacles, à nos get-together qu'on appréciait vraiment. Mais elle a mis un peu, pour l'avouer, hein, Magali, le vent dans les voiles à notre commerce de proximité. Donc, on va acheter au dépanneur. Quand on a un dépanneur bien garni avec des produits de qualité, ça a vraiment été en plein dans le mille, en plein dans ce que les gens recherchaient dans cette période un peu incertaine, là, où est-ce que même aller à l'épicerie fait peur. Donc, notre dépanneur rassurait. On était contents d'être là pour eux, puis contents de leur offrir un repas complet ou à peu près dans un dépanneur assez menu. Là. C'est vraiment pas un grand local et beaucoup de stock, mais bon, quand même. Juste la qualité.
Ben oui. J'ai juste un mot peut-être. Est-ce que c'est l'avenir pour vous aussi de continuer dans cette direction-là, ou est-ce que vous aviez des plans ou des projets qui avaient été mis peut-être en suspens pendant la COVID que vous allez relancer pour les prochaines années?
On a dû faire des choix à un moment donné pour justement, est-ce qu'on garde ouvert le dépanneur, parce que on a eu des employés, puis ça nous a permis de se rendre compte que juste appuyer sur du bénévolat, un dépanneur n'a pas tant d'heures d'ouverture que ça. Puis donc le COVID, la période du COVID nous a permis de développer et d'approfondir un projet qu'on planifiait, qui était d'avoir un commerce autonome. Donc, c'est un précédent qui... Il y a des précédents dans le Québec qui existent, où est-ce que les gens, avec un contrat d'usager et puis une carte de membre, ont accès à l'inventaire du dépanneur, puis ils vont être en mesure de se servir vraiment en commerce de proximité, donc en produit de dépannage, vraiment, et puis payer eux-mêmes, puis ressortir avec leurs denrées. Donc, le COVID nous a confortés dans ce choix-là d'affaires pour réussir à diversifier puis augmenter nos heures d'ouverture et diversifier la manière de tenir ce commerce-là.
Et merci Isabelle. Je vais maintenant donner la parole à Guillaume Néron et Léa Landry-Massicotte. Je le rappelle, vous êtes membre fondateur de la coopérative L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix. Bonjour à vous deux d'abord.
Bonjour.
Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ici au podcast. C'est très apprécié votre présence. Est-ce que, j'imagine que Isabelle, avec sa description de sa coopérative, il y a sûrement des liens qu'on peut faire assez rapidement. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord quelle est la situation actuelle à Petite-Rivière-Saint-François et pourquoi avoir éprouvé le besoin de monter une coopérative, ou en tout cas un comité citoyen, je ne sais pas comment vous l'appelez?
En fait, je pense que, initialement, ça peut... on n'a pas un parcours très linéaire puis très conventionnel là, dans la mise en place d'un projet. Parce que initialement, en fait, nous, on est deux projets qui avons fusionné ensemble. Là, on était à l'extérieur de la région, donc on est des néos. Donc, rapidement, c'est ça. Donc, nous, en fait, on a mis un projet sur papier. On est tous des gens qui avons étudié dans différents domaines. Moi, initialement, je suis j'ai étudié en aménagement et interprétation du patrimoine.
Moi, au travail social.
Puis dans l'équipe, on avait des gens en bioécologie. Bref, on provenait de différents milieux, puis on a étudié dans différentes régions du Québec. Puis je pense que c'est aussi dans nos parcours éducatifs, puis tout ça, à travers le temps, qu'on on croyait beaucoup plus dans des perspectives de développement régional, puis dans une volonté vraiment de pouvoir avoir des impacts concrets aussi sur notre milieu. C'est sûr qu'on a des liens des fois familiaux aussi dans la région, mais on n'a pas grandi directement ici là, dans Charlevoix. Donc en 2016, on a mis un projet sur papier, puis on l'a un peu envoyé à l'univers, la façon de parler, mais à des agents de développement communautaire, tout ça à travers le Québec, dans des endroits cibles, mais pas ici directement à Petite-Rivière-Saint-François. Puis c'est tombé entre les mains d'un agent de développement communautaire ici à Petite-Rivière. C'est ça, lui voyait vraiment un site en fait qui pouvait vraiment porter le type de projet que nous on avait envie de mettre en place, qui est le domaine Allégorie, qui est un site en fait historique, qui est cité depuis les années 90, mais qui était à ce moment-là laissé à l'abandon depuis à peu près un peu plus d'une dizaine d'années dans le fond. Fait que ça a commencé comme ça en fait, c'est la prémisse de l'histoire. Donc au départ, nous on un peu naïvement, on s'est lancé dans ce projet-là. Il n'y avait pas le projet nécessairement de coopérative au départ. Fait que on a commencé on est venu d'abord s'installer pour s'immerser un peu dans le coin. Puis le processus a été entre l'ouverture des premiers projets, l'élaboration de tout ça, il a été de un an et demi. Fait que pendant un an et demi, on est débarqué, on était plusieurs, on a habité ici en haut, puis on a commencé à juste, avant même de penser à réfléchir de quelle façon allait se déployer le projet. Exact.
Oui, c'est ça. On voulait s'immerser dans la région, s'immerser, savoir qu'est-ce que ce lieu-là, qu'est-ce que ça représente pour les gens. On ne voulait pas arriver avec un projet puis l'imposer dans une communauté. Au contraire, on voulait que ça réponde à un besoin. Puis c'est un peu comme ça que c'est venu, là, dans le fond.
Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, vous êtes de l'extérieur. Vous avez une idée. Vous avez plus une volonté d'aller dans une certaine direction. Puis là, vous allez vous insérer dans un tissu social qui est déjà existant. Ça doit être tout un challenge quand même.
Ben oui, ça peut sembler comme ça, mais pour nous, en tout cas, l'expérience a été super enrichissante. Je pense qu'il y avait de l'ouverture à ça, puis c'est surtout le type de projet qu'on développe ici, dans la perspective de la façon dont on l'a développé. Fait que dans l'historique, dans le fond, en 2016-2017, on a tenu toutes sortes d'activités, un peu comme la coop. Excusez-moi. Un peu comme la coopérative Les Grondines fait, là, dans le fond, c'est on a tenu différents types d'activités. On a rassemblé des dizaines et des dizaines de citoyens. On a essayé de faire un peu des événements qui vivaient à un peu se remémoriser un peu c'est quoi le site, c'est quoi l'appartenance, les liens, les souvenirs des gens par rapport au lieu qui est ici, puis comment qu'on peut amener ce site-là pour finalement. De quelle façon le domaine peut répondre à des besoins de la communauté, un peu au même titre qu'a grandi. Fait que c'est un peu dans la même perspective initiale, puis ben, c'est de là qu'est né le projet de la coopérative. Fait qu'en 2017, on a fondé une coop de solidarité parce qu'on trouvait que c'était la meilleure structure pour répondre à ce besoin-là un peu. Parce qu'il y a des enjeux d'une part de vitalité économique, donc il faut absolument qu'on soit capable aussi d'assurer la santé financière du site puis de le maintenir en activité dans le temps. Mais de l'autre, on n'est pas une entreprise conventionnelle. Donc, notre objectif à nous premier, ce n'est pas d'uniquement développer une entreprise, un projet d'affaires. C'est vraiment multidimensionnel. C'est dans cette perspective-là qu'on a décidé de faire ça. Donc, aujourd'hui, on trouvait que le modèle de coopérative de solidarité, c'était le modèle qui se prêtait mieux au type de projet, étant donné qu'il fait appel vraiment à la communauté, puis il intègre dans sa structure démocratique l'ensemble des acteurs et des parties prenantes au projet.
Il invitait, en fait, ce modèle d'affaires-là invite un peu les gens à venir s'impliquer, puis surtout considérant l'histoire du site, l'histoire du lieu, c'est d'autant plus important. Fait que c'est venu comme un peu s'imposer de soi-même, en fait, de cette façon-là de faire. Là.
Okay. Et puis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que réellement vous sentez que les gens se sentent partie intégrante de votre coopérative et viennent finalement d'eux-mêmes participer à toutes les activités, puis peut-être même aller un peu plus loin, peut-être aller vers des activités qui vont être avec une place politique, par exemple?
Oui.
Oui.
Ouais. Ben, dans le fond, depuis le début, la façon dont c'est construit, c'est qu'au départ, on était comme 5-6 personnes, mais depuis, on est beaucoup plus nombreux, là, depuis les débuts de la coop. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans le fond, initialement, on avait peut-être plus ou moins une compréhension des enjeux terrain, des perspectives aussi du secteur, mais c'est quelque chose qui, d'abord, on a un intérêt énorme pour ça, qu'on a rencontré des gens absolument incroyables, une communauté vraiment très, très forte. Puis, dans le fond, c'est devenu un peu l'identité du projet. Fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, c'est ça, il y a des descendants de la famille Simard qui étaient ici, qui siègent aussi sur le conseil d'administration. Il y a vraiment toute une structure. Puis on a compris au fil du temps, dans le fond, c'était quoi les enjeux, puis comment on pouvait orienter un peu le projet dans son contexte de développement pour qu'il soit capable de répondre vraiment le plus possible à la réalité du milieu, puis les besoins du milieu.
Est-ce que vous avez réussi, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des projets ou des enjeux à l'heure actuelle qui sont particulièrement criants ou nécessitant finalement d'avoir une voix citoyenne à des niveaux écologiques, évidemment là. Est-ce que vous avez rencontré des enjeux très particuliers, spécifiques à votre région, dans lesquels vous avez vraiment eu un impact positif ou vous avez permis finalement à l'ensemble de la population de pouvoir faire entendre sa voix?
Mais je pense que initialement, pour bien comprendre puis saisir le projet de la COA, plutôt que d'être dans la particularité de certains enjeux, c'est que à la base, notre objectif, puis je pense que c'est comme ça que ça s'est construit, c'était de créer un espace collectif qui était voué à susciter les initiatives communautaires, les initiatives environnementales, puis au travers de tout ça, dans le fond, de favoriser le partage des connaissances, le maillage avec la communauté en soutenant justement les relations qui sont intergénérationnelles. On a une communauté vieillissante, mais tu sais, on a besoin aussi de dynamiser le milieu pour amener les jeunes puis s'assurer aussi qu'on vitalise le secteur. On a une perspective beaucoup dans le partage intergénérationnel, interculturel. Puis avec ça, après avoir construit le projet, mais notre objectif, c'est de mettre en place des projets qui sont structurants pour toute la communauté. Fait que dans la première phase de réalisation du projet, ben il y a eu la fondation de la coop, puis nous on partait d'un site qui était abandonné. Fait que les premières années, notre objectif c'était vraiment de revitaliser le site, d'y redonner un âme, une vie, puis après de mettre en place des services parce qu'on est autonome financièrement, on n'est pas subventionné ou presque, on est 100% autonome, donc on a mis en place des services économiques dans le domaine de l'écotourisme. Pourquoi qu'on dit le domaine de l'écotourisme, c'est parce que la façon dont on développe le projet puis on l'intègre, on fait appel à une clientèle, à des visiteurs qui viennent essentiellement profiter d'un milieu, mais le projet, essentiellement, il est intégré dans la communauté, puis il est à l'image aussi de la communauté, puis il vise aussi à répondre à des besoins des locaux. Donc, on n'adapte pas le milieu, on ne modèle pas le milieu pour le rendre uniquement au service d'une clientèle de passage, puis qui finalement contribuerait à accentuer un phénomène de dévitalisation paradoxalement. Fait que c'est dans cette perspective-là qu'on a vraiment développé le projet depuis le début. Fait qu'en phase 1, c'était ça. On met en place des services, on restaure, on rénove, on assure notre vitalité économique, on essaie d'être capable d'être autonome le plus possible financièrement. Puis en phase 2, ben là, on met en place des activités culturelles, des activités communautaires. Bref, on était vraiment dans cette mouvance-là. On a toutes sortes de projets là, sur place. Puis ça, ben, ça voyait, on avait quand même le vent dans les voiles là, jusqu'à la pandémie. Là. Puis après ça, bon, ça allait un petit peu ralentir cet aspect-là. Mais entre-temps, oui, il y a des enjeux. Là. On en a discuté un petit peu au téléphone au parallèle, mais auparavant. Mais il y a des enjeux, c'est sûr, de communauté. On est un peu l'antipode d'un projet qui se développe à côté de nous, qui est le Club Med de Charlevoix. Donc, tu sais, on est dans une autre perspective, disons, complètement à l'opposé. Là, tu sais, sans être en opposition constante dans cette dynamique-là, on s'inscrit dans une culture qui est différente là, et qui va complètement dans le sens inverse. Donc, c'est pour nous, ce type de développement-là, évidemment, à la base, c'est pas nécessairement, ça va pas dans le sens de l'écotourisme. Mais on a fait le choix, dans le fond, d'aller dans une autre direction qui correspondait davantage, on le pense, en tout cas, aux besoins de la collectivité, puis à assurer la pérennité, finalement, aussi à préserver un peu l'identité du milieu puis du secteur au travers même d'un projet qui est touristique.
D'accord. Et quel est l'avenir finalement pour vous? Ça ressemble à quoi? C'est quoi vos projets actuels, mais ceux qui s'en viennent peut-être dans un horizon plus long?
Oui, ben c'est sûr que, tu sais, comme on l'a mentionné aussi, le côté COVID nous a remis un peu les choses en perspective. On s'enlignait, c'est sûr, un peu plus. On était ancré un peu dans nos services, si je peux dire, qui est quand même un ancrage avec la communauté locale parce qu'on a le petit café sur place, on a des ateliers, tout ça. mais ça nous a remis en perspective dans le sens que notre envie est d'accentuer un peu cette implication-là de la part des membres, de la part des citoyens dans la coopérative. Donc, je dirais qu'un des gros aspects qu'on veut développer dans le futur avec la communauté locale, donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, c'est vraiment ça, comment qu'on peut initier des initiatives, déployer, créer ensemble pour se créer un milieu de vie, un peu, si je peux dire, à notre image, là. Donc ça, c'est vraiment un des éléments centrales, là.
Si je peux faire du pouce un peu là-dessus, c'est que, tu sais, dans la perspective, c'est que là, une fois qu'on a, bon, on a notre communauté de membres, on a mis en place, au début, on avait un organisme super centralisé parce qu'on est une coopérative, puis on est dans l'échange, puis dans le partage. Mais notre volonté, c'est qu'au travers de tout ça, on est persuadé, nous, que même dans un projet qui génère des revenus puis qui amène des retombées directes, on est capable de réussir à mettre en place une structure qui soit encore plus,
je dirais,
moins, puis collectivisée, comme concrètement, même dans les décisions, dans la vision, parce que vite, on se retrouve dans un carcan de roulement de service. Pour éviter ça, mais il faut trouver une façon de réussir au sein même de notre structure, à faire en sorte que les gens puissent contribuer, s'investir, décider, tu sais, d'initiatives à prendre. Fait que quand la pandémie est arrivée, on s'est dit right, on a un peu une pause pour être capable de réfléchir à ça, puis de voir comment on va être capable de mettre en place ces projets-là. Fait qu'on a décidé de se faire accompagner un peu là-dedans. On a approché l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère. On travaille avec d'autres projets comme ça. Puis on a mis en place le projet qu'on appelait le projet Résilience. Puis la perspective de ça, comme Léa l'a mentionné, c'était vraiment directement de collectiviser nos ressources, d'essayer de réfléchir pour trouver des solutions qui sont davantage aussi concrètes à notre réalité, puis de co-créer, puis d'initier, puis de susciter encore plus l'initiation, la prise d'initiative en lien avec des projets. Fait que là, on était là-dedans beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais c'est ça, la pandémie, le besoin d'adaptation constante pour maintenir nos services, ça fait en sorte qu'on a pris un peu, disons que ça a ralenti un peu le processus qu'on avait commencé à initier.
C'est pas non plus le meilleur contexte pour être capable de se rassembler puis de réfléchir à tout ça ensemble aussi, là.
Mm-hmm. Mais notre perspective, on est comme rendu là quand même déjà, je dirais quand même comme organisation, parce que financièrement, nous, ça va bien, notre chiffre d'affaires, entre guillemets, là, il est en croissance depuis notre ouverture, on a développé des nouveaux services, pour ça, ça se passe vraiment super bien, mais maintenant, c'est vraiment de voir comment qu'on peut faire de ce lieu-là un lieu encore plus à l'image de la communauté, comment qu'on peut faire en sorte que celui-là puisse encore plus initier des projets, puis réussir à faire en sorte aussi que les gens soient en mesure de se rencontrer, d'échanger, puis même au travers de recréer ces espaces-là d'échange puis de partage, de s'investir dans les enjeux qu'on pourrait appeler plus politiques, d'être plus dans une prise de, tu sais, il faut recréer ces espaces-là de rassemblement, de milieu pour qu'on puisse reprendre goût de faire communauté ensemble, puis d'intervenir après directement aussi sur la scène politique ou au travers des projets, puis avoir sentir qu'on
un peu cultiver un côté... notre pouvoir d'agir là, au final.
Oui, tout à fait. Et ça donne vraiment vraiment le goût d'aller venir vous voir, sérieusement là, c'est assez intense ce que j'entends là, c'est exactement ce que nous on aimerait sûrement pouvoir développer de notre bord aussi. Et merci à tous les deux. On va revenir tout à l'heure de toute façon en table ronde pour rediscuter de tout ça. Là, j'aimerais juste peut-être donner la parole à un tout autre contexte, à une autre personne qui va nous amener peut-être à une autre vision du débat là, puisque on va se tourner vers une vision un peu éco-citoyenne complètement différente, plus descendante, un mandat donné à un organisme subventionné afin de mobiliser les citoyens dans un but de carboneutralité. Et d'ailleurs, le projet s'appelle « En route vers la carboneutralité » de la MRC de Masquinongée. Il est piloté par Pascal Baril-Sabourin, un genre de projet en développement durable et communication que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Ben oui, un gros, gros merci à toi aussi. Le projet en est à sa cinquième année d'existence, donc on peut maintenant dire que vous avez accumulé pas mal d'expérience dans le domaine. Parmi les solutions que vous avez préconisées, la mise en place de comités citoyens avec des orientations spécifiques en fait partie. Est-ce que tu peux nous décrire exactement le pourquoi et le comment de cette mise en place des comités citoyens, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Avant, juste mettre en contexte un peu le projet. Les comités citoyens, c'est qu'une partie du projet Carbo. Je vais l'appeler projet Carbo parce qu'en route vers la carboneutralité, c'est assez long. Donc, on travaille dans le fond avec, on est subventionné par financement et on travaille justement avec quatre comités différents. Donc, comité entreprise, comité municipal, comité agricole et comité citoyen. Donc, c'est quatre axes avec lesquels on travaille justement pour compenser, mettre en action les gens pour réduire tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc, pour juste l'aspect citoyen, on vise dans le fond la MRC de Masquinongé. Donc, on a créé un forum citoyen avec tous les gens intéressés à y participer pour justement trouver des idées, pour créer des activités pour les gens de la MRC, pour justement trouver des trucs, sensibiliser. Donc, on est beaucoup là-dedans. Puis, oui, on a le comité citoyen, MRC. Mais ça en est suivi de comités citoyens locaux. Donc, on a remarqué aussi les gens peut-être pas le sentiment d'appartenance tant que ça sur leur MRC, mais par contre, pour leur municipalité, tout ça, c'est peut-être un petit peu plus, ça vient un peu plus chercher. Donc, c'est ça, on a eu dans le fond la création depuis les dernières années de deux comités citoyens, un à Saint-Ursule qui est piloté par une élue municipale qui a créé là, un plan d'action, tout ça, qui dans le fond est très impliqué avec le conseil. C'est quand même un lien qui est stratégique pour le comité citoyen. Puis un autre comité citoyen à Saint-Alexis-des-Monts qui, lui, a été démarré par quelqu'un qui travaille à la ville, qui a recruté les gens. Puis c'est ça, il y a deux modèles de comité citoyen et il y en a d'autres à venir, bien sûr.
Puis là, en fait, c'est vous qui initiez les comités citoyens. Comment ça, on initie un comité citoyen? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est censé être spontané, un comité citoyen? Ou peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui rêve en couleur.
Ben non, c'est les comités citoyens, c'est pas nous qui décidons, on n'ouvre pas des franchises. Bien sûr, c'est... c'est initié. Par contre, on est là beaucoup en support. Donc, on a des contacts, on est capable de donner une certaine structure pour justement créer un plan d'action. Donc, on est vraiment plus là pour encadrer le comité citoyen pour pas justement, c'est justement du temps bénévole, pour pas que les gens s'éparpillent un peu partout. Donc, on est capable là, avec ma collègue Karine Langlais là, qui s'occupe de cet aspect-là, orienter, faire des bonnes actions, parler aux bonnes personnes. Puis, donc ça fait en sorte que le comité citoyen locaux, municipaux, a plus de chances de prospérer par la suite.
Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous y arrivez à monter ces comités citoyens? Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce que ça mobilise minimalement la population sur place? Est-ce que c'est réellement porteur?
Oui, ça fonctionne. C'est sûr, on n'a pas une échelle de 5-10 ans, mais ceux qui ont été mis en place ont vraiment de la vie, ont plusieurs idées, plusieurs initiatives de leur côté. Puis, des fois, on travaille là, en collaboration avec eux. Par exemple, dernièrement, on a fait un masque qui se ramasse, on a invité les municipalités, soit par les élus municipaux ou par les directeurs de loisirs, à justement prendre une fin de semaine proche de la Journée de la Terre, la fin de semaine du 23 au 26 avril, à ramasser justement les déchets qu'on retrouve dans les fossés, aux alentours de la maison, puis soit aller porter ça à la municipalité ou tout simplement les jeter. Mais l'idée est partie du comité citoyen MRC, mais les comités citoyens locaux ont vraiment pris la balle au bon, ont fait beaucoup en bon français du pushing, là, mais ont fait du bénévolat, ont encadré cette activité-là dans leur municipalité. Donc, tu sais, oui, on voit qu'il y a de la vie, on voit que c'est ça, c'est très, 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 là, très intéressant. Puis, aussi le fait que, il y a des comités citoyens municipaux qui se font, mais là, on en vise trois pour les deux prochaines années. Il y en a un qui s'en vient là, dans la municipalité de Yamachiche, là, qu'on est en train de justement là, partir avec les élus municipaux. Donc, mais tu sais, plus qu'il va y avoir des comités citoyens, je sens que plus qu'il va y avoir un intérêt de la part des municipalités.
Puis, tu en as donné quelques exemples d'autres outils que vous utilisez, là, mais vous arrêtez pas uniquement au comité citoyen. Vous avez parlé de forums citoyens. Est-ce que c'est des forums citoyens? Est-ce que c'est des forums qui permettent réellement de brasser des idées et puis d'amener des solutions, par exemple? Est-ce que ça ressemble à ça ou c'est d'autres types de forums?
Non, c'est un peu cette idée-là. Dans le fond, le premier forum qu'on a tenu en 2000... 2018, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 2018. On avait invité des intervenants, justement, des experts à venir parler de leur expertise, de leur connaissance au groupe. Puis, entre ça, était entrecoupé de justement des activités de maillage ou de discussion. Donc, pour justement créer des idées, créer un bouillonnement d'idées là, autour du domaine du développement durable. Puis, c'était vraiment cet aspect-là qu'on voulait recréer. Là, on a refait un forum citoyen virtuel, COVID oblige. Notre programmation, on a décidé de justement de l'offrir à tout le monde, puis de l'offrir là, sur une plus longue durée de temps qu'une fin de semaine. Donc, si vous allez sur le site Carboneutralité Masqui, vous allez avoir les accès. Là. Donc, justement, on a fait des entrevues avec Laure Verdel, François Delorme, Olivier Riffon et Valériane Champagne-Saint-Arnaud. Trois types d'entrevues différentes où, justement, on aborde plusieurs thèmes de développement durable. On a également des podcasts sur la plateforme et aussi des initiatives là, citoyennes. Donc, des gens de la MRC qui viennent parler de leur initiative. Par exemple, la laiterie Lampron qui fait leur propre lait bio et ont aussi s'occupent de leur parcours, les chemins courts là, pour justement là, distribuer leurs produits. Donc, ça, c'est plein d'initiatives de même qu'on veut mettre en. Qu'on veut montrer que ça fonctionne et qu'il y a des intérêts là, positifs. Dans ce type d'action.
Et merci Pascal. Je rappelle que je parlais avec Pascal Baril-Sabourin, agent de projet de développement durable et de communication pour le projet Carbo. Lui, il l'appelle Carbo Neutre, mais bon, on va l'appeler dans son intitulé total, en route vers la carbone neutralité de la MRC de Masquinongers. Là, je vais me tourner vers notre dernière invitée, mais pas la moindre, de très très loin, enfin. En fait, on pouvait pas vraiment passer ce soir à côté de la vision des élus, et en particulier la vision de l'éco-citoyenneté qui peut être perçue par les élus locaux. Et qui de mieux que d'inviter évidemment notre élue à nous, là, celle qui a le plus d'importance pour la ville de Sainte-Anne-de-la-Pérade, j'ai nommé la mairesse, Madame Diane Aubut. Bonjour Madame Diane Aubut.
Salut Sébastien.
Merci. Je vais t'appeler Diane parce que je sens que c'est dans cette direction-là qu'on s'enligne.
Ça fait plaisir.
Parfait. En tant qu'élu, comment toi tu perçois les éco-citoyens et les comités citoyens? C'est quoi leur place exactement?
Ben écoute, je te parle vraiment, moi, comment je perçois ça, parce que je ne peux pas m'engager auprès de mon conseil municipal. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, pour moi, un comité citoyen, je trouve que c'est très important dans une communauté. C'est même sain que les citoyens puissent prendre des positions, se prononcer sur différents projets ou même faire connaître leurs préoccupations au conseil municipal parce que c'est tu sais, les citoyens sont les gens des comités citoyens sont au cœur de la vie de la communauté. Nous autres, t'sais, moi, comme élue, comme mairesse, oui, j'essaie d'être le plus possible au cœur, mais il y a des fois qu'on surfe un petit peu sur-dessus de la vague. Fait que les comités citoyens nous permettent vraiment d'être à l'écoute. En tout cas, moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Ça me permet également, des fois, d'ajuster mes perceptions par rapport à certains projets qui peuvent nous être présentés ou quand on a vraiment le pouls. De la population, ça l'ajuste vraiment comment on doit analyser les projets.
Est-ce que les comités citoyens ont réellement un pouvoir, peuvent vraiment faire changer des décisions ou même amener des orientations complètement différentes dans une ville, d'après toi, puisque je ne peux pas parler pour la ville, tu ne peux pas parler pour la ville de Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais d'après toi, est-ce que c'est réellement un impact qui peut être perçu ou est-ce que c'est quand même, ça reste encore marginal?
Bien, je pense qu'il y a des petites choses qui peuvent se faire. On prend juste l'exemple de Magali qui a fait une demande dernièrement pour avoir l'autorisation de faire des jardins en façade et ça a été accueilli favorablement par le conseil. Donc, un conseil municipal, c'est composé de 7 personnes qui ont des opinions qui sont différentes. Il y a des projets, des fois, qui sont très bien perçu par l'ensemble des membres du conseil. Il y a des fois que ça ne passe pas nécessairement. Donc, Isabelle, qui fait partie du comité d'environnement, tu sais, il y a des gens qui sont sensibles à tous les aspects de l'environnement, mais tu sais, il y a des fois qu'on a du travail à faire. Je t'en parlerai tout à l'heure parce que je sais que tu as une question sur les enjeux. Fait que je pourrais vraiment te donner un peu là, ma perception par rapport aux enjeux. Mais moi, une chose que je trouve super importante sur un comité citoyen, c'est qu'ils puissent garder leur autonomie. Même si on a des liens avec la municipalité, l'important, c'est qu'ils ne soient pas attachés à une municipalité pour avoir leur libre arbitre.
Je ne peux qu'abonder dans ton sens, Diane. En effet, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'autonomie d'un comité citoyen est une obligation en soi. Dis-moi, justement, on en parlait tout à l'heure, ou en tout cas, t'en as glissé un mot. Pour toi, est-ce que ça fait partie des enjeux, mais prioritaires, ou en tout cas qui rentrent dans le débat de manière assez importante, toutes les questions environnementales, parce qu'ici, on est quand même des éco-citoyens. Donc, est-ce que l'environnement est réellement, je dirais, un enjeu de taille pour une municipalité comme celle de Sainte-Anne-de-la-Pérade?
Pour moi, oui. On peut pas nier que c'est un sujet qui est présentement, qui est discuté partout. Ça devient comme un sujet qui est de première importance, à mon avis. Le fait de tu sais, faut considérer l'environnement pour être capable de faire des choix puis prendre des décisions éclairées dans une municipalité. Tu vois, la municipalité, on a une politique familiale, municipalité amie des Indes. On est en train de travailler à améliorer l'intégration de toutes les nouvelles familles qui viennent s'installer dans notre communauté parce qu'on a senti qu'il y avait comme une lacune à cet effet-là. On travaille au niveau du développement économique. On essaie de trouver des façons d'améliorer notre développement domiciliaire. C'est tous des sujets qui sont importants pour une municipalité. Bien, il y en a plein d'autres, là, voirie, etc. Là. Ça, j'en parlerai pas. Mais si on ne considère pas l'environnement puis notre futur, on ne peut pas arriver à faire des projets comme ça puis être... Je pense que l'environnement devient un sujet qui est transversal dans tout ce qu'on fait dans une municipalité, dans toutes les décisions qu'on prend. Si on fait du développement économique, il faut se soucier de l'environnement. Si on fait du développement domiciliaire, il faut se dire ben, comment on peut faire un projet qui fait en sorte que l'environnement et dans nos préoccupations. Moi, je pense que ça fait partie de nos obligations.
Et je suis totalement d'accord avec toi, Diane, mais mon autre questionnement est tout simplement de savoir où va se placer toutes ces questions environnementales à travers toutes les autres préoccupations qu'une mairesse ou qu'un conseil d'administration de municipalité a à gérer. J'imagine que ça doit être quand même un ensemble très complexe à gérer.
Je te dirais que oui, parce qu'on n'est pas tous rendus au même niveau dans notre réflexion par rapport à l'importance de protéger notre environnement. C'est variable par rapport aux élus et il y en a que c'est vraiment important. Il y en a d'autres que, il y a bien d'autres choses à régler avant de se préoccuper de l'environnement. Moi, dans ma façon de voir les choses, c'est que peu importe ce que tu as à gérer comme dossier, si tu as une préoccupation environnement, je pense que ça fait partie de notre rôle comme élu. À même titre qu'on a une réflexion quand on fait des projets sur la famille, comment intégrer la famille, comment protéger les aînés, comment protéger les enfants. Moi, je pense que ça fait partie de notre rôle. C'est sûr qu'on a un rôle de sensibilisation à faire, puis je pense que oui, comme élus, mais oui, les citoyens doivent également sensibiliser les élus à l'effet que l'importance de protéger notre environnement, l'importance de faire de l'achat local parce que ça renforcit notre communauté, c'est tout des... Il faut faire en sorte qu'on ait le plus possible de gens qui adhèrent à ces principes-là. Puis on est chanceux à Sainte-Anne parce que, oui, il y a le comité d'environnement, mais cette semaine-là, c'est la semaine écolo. On a un comité écolo qui fait des actions formidable. On a les fêtes champêtres qui sont en train de développer un marché local. On a des producteurs qui font en sorte qu'on a des produits de vraiment dans notre communauté. Je pense qu'on est choyé parce que tous ces éléments-là font en sorte qu'on est capable de dire, on est capable de bâtir sur ce qu'on a. Puis, on est une communauté où je voyais là, les super de beaux projets qui ont été présentés. Je trouve ça épatant. Puis, je me dis, ici, à Sainte-Anne, on a beaucoup de services. Il s'agit juste de faire un petit quelque chose de plus pour faire en sorte qu'on aille un peu plus loin dans tout ce qu'on fait. Puis, je pense que, oui, le conseil municipal est là. Il a son rôle à jouer. Mais le premier rôle, là, c'est les citoyens qui doivent le jouer et qui doivent faire en sorte que vous devenez assez fort, assez important pour faire changer les mentalités des élus et de tout le monde. Fait que votre rôle est hyper important. On doit travailler à développer une conscience sociale puis amener la population à devenir éco-responsable. Oui, la municipalité peut aider. Mais avant tout, c'est vous autres qui allez déclencher la machine et qui va faire en sorte que les élus n'auront pas le choix de suivre votre mouvement. C'est ma vision.
Un énorme merci à tous pour cette discussion passionnante. Je rappelle que nous parlions avec Isabelle Mingui de la coopérative de solidarité des Grondines, Guillaume Néron et Léa Landry-Massicotte de la coopérative L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François, Pascal Baril-Sabourin, agent de projet en développement durable et communication pour le projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinongé et Diane Aubut, mairesse de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Merci encore à toutes et à tous. On le comprendra, l'éco-citoyenneté est affaire de point de vue et chacun peut facilement y mettre les attentes qui lui correspondent. L'environnement, lui, est affaire de tous et quelle que soit la méthode qui vous corresponde, j'espère que vous aurez réussi à trouver l'éco-citoyen qui sommeille en vous et qui n'attend qu'un petit coup de pouce pour s'exprimer. Alors ne le laissez pas dormir et venez frapper à la porte de votre municipalité. Je suis bien convaincu que s'il n'existe pas de comité dans votre quartier, région, ville, village, il ne suffit souvent que d'une seule personne pour faire s'embraser le feu qui couvre dans votre coin de pays. C'est tout pour aujourd'hui et pour la première saison du podcast 15 minutes pour changer le monde. On vous l'avait promis en rafale, quelques nouvelles de nos anciens invités. Sachez qu'à la suite du podcast, il y aura un premier répart café organisé ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade très prochainement. Merci. Normalement au mois de juin, organisé par le répart et trucs. Les très sympathiques maraîchers des Terres du Possible que nous avions invités dans notre troisième épisode ont encore des paniers bio disponibles. Vous pourrez aussi évidemment venir les rencontrer au tout premier marché public de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui s'ouvrira le 11 juillet de cette année. Dans un autre ordre d'idées, nous apprenions récemment que Benjamin Picard Joly, qui nous parlait dans la deuxième émission des tiers-lieux, Benjamin Picard Joly, veut s'installer ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade et faire sa coopérative. Un dossier évidemment que nous allons suivre. Enfin, sachez que Plan Catching, que nous recevions dans la première émission, se lance dans une campagne de socio-financement afin de monter le premier réseau social du jardin résilient, du jardinier résilient. On vous invite évidemment à aller voir toutes ces initiatives et bien d'autres encore que nous allons faire évidemment mettre sur la page et en lien avec notre podcast. Nous les suivrons tout au long de l'année et de la saison prochaine qui, j'espère, vous allez nous retrouver à l'automne de cette année. Et c'est d'ailleurs un rendez-vous que nous vous lançons. Un énorme merci évidemment à toute l'équipe de production de 15 minutes pour changer le monde, en particulier à Magali, Massia, Elisabeth Fauché, pour ne citer qu'eux. En attendant, passez un excellent été, quel que soit l'endroit que vous fréquentiez, dans votre potager, dans les boutiques des artisans locaux, ou à marcher dans la nature, ou autour d'une table remplie d'amis. Amusez-vous et surtout, écrivez-nous, on aime ça vous lire, et suivez-nous, que ce soit sur la page du comité ou sur les plateformes de diffusion. Un gros, gros, gros merci encore de nous suivre et à très, très, très bientôt. Bye bye.